Sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. On est ensemble jusqu'à 13h. Un vrai bonheur de se retrouver pendant l'heure du déjeuner. Alors, au sommaire de ce magazine aujourd'hui, dans quelques instants, on prendra des nouvelles du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Alors, bien sûr, la partie béarnaise qui nous intéressera. Nous serons avec Nathalie Chambon qui nous parlera et qui mettra à l'honneur 5 événements qui vont se produire. 2 pour ce soir et puis 2 et 3 pour les prochains jours du côté donc du Béarn. Et puis, nous serons avec Anne-Rose Jankovic qui est allée sur place aux forges à Tarbes, patrimoine de l'industrie française. L'usine Les Forges de Tarbes est implantée sur le site historique de l'arsenal de Tarbes. Elle fournit les corps creux destinés à des grands industriels de la défense terrestre et navale. La société dispose d'un savoir-faire unique et la seule forge capable d'assurer la production des corps creux de grandes dimensions en France. Elle parlera bien sûr de ce qui est en train de se vivre du côté donc des forges à Tarbes. Et puis nous partirons aussi dans les Pyrénées comme nous le faisons chaque jeudi avec aujourd'hui, mais il est très à l'honneur puisque hier on parlait d'un musée qui était consacré du côté de Juillan. Et bien aujourd'hui, Anne Lasserre nous parlera d'un grand écrivain puisque c'est Victor Hugo dans les écrivains célèbres qui ont parlé des Pyrénées, qui ont surtout écrit. Allez, tout de suite, on retrouve l'essentiel de l'actualité de ce jeudi.
Le barreau de Toulouse maintient son mouvement de grève contre la réforme de la justice criminelle. Malgré l'avis favorable du Sénat, les avocats dénoncent un texte qu'ils jugent dangereux pour les droits des victimes et l'équilibre du procès pénal. La préfecture des Hautes-Pyrénées dresse un bilan de 3,2 millions d'euros pour le coût de gestion de l'unique foyer de dermatose nodulaire. Malgré l'absence de nouveaux cas depuis janvier, 26 communes restent sous surveillance avec des restrictions d'exportation. Le Lot lance un appel aux habitants pour identifier ses soldats oubliés. À l'approche des 80 ans de la guerre d'Indochine en juin prochain, l'Office national des combattants cherche à compléter la liste des militaires morts pour la France afin de rénover le monument commémoratif de Cahors. Une classe de jeunes sapeurs-pompiers ouvrira au lycée Jean Jaurès de Sainte-Afrique. À la rentrée, ce nouveau dispositif formera les élèves au risque majeur et la sécurité civile grâce à un partenariat entre l'éducation nationale et les services de secours du territoire. À Cahors, un plan budgétaire vient d'être adopté pour le réaménagement de la place Chapoux avec des objectifs de verdissement, de sécurisation et la protection du parvis de la cathédrale Saint-Étienne classée à l'UNESCO. Et enfin, Domus Vie et TBS Éducation à Toulouse lancent en partenariat le programme Cap Direction pour la formation professionnelle en maison de retraite. Le programme vient de débuter sur le campus de Toulouse et durera 18 mois.
Et un grand merci à Jenny Lee Tcheb de l'Institut de journalisme de Toulouse, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Allez, on va prendre tout de suite des nouvelles du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron.
Présence à Bourdeuil, 94.
Les semaines passent vite. Il est l'heure de partir vers le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron pour vous retrouver. Nathalie Chambon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Quel plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Ben, chaque semaine, on égrène le rendez-vous, l'agenda de votre diocèse. Alors, on s'occupe, j'aime bien le rappeler, de la partie béarnaise, car pour le Pays Basque, vous avez la chance d'avoir Radio Lapourdi à vos côtés.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, on bascule dans le Béarn.
Voilà, on bascule dans le Béarn. Et vous avez deux propositions pour ce soir. La première, c'est une veillée de prière qui aura lieu à Pau.
Tout à fait. La communauté de l'Emmanuel organise donc sa veillée de prière mensuelle à l'église Sainte-Bernadette à Pau de 19h à 20h30. Voilà, c'est ce thème de l'année sur « Venez plonger dans la tendresse de Dieu ».
Voilà pour cette proposition. On va rappeler peut-être l'endroit.
Oui, pardon, c'est à l'église Sainte-Bernadette à Pau.
Voilà, l'église Sainte-Bernadette. Et puis, je disais qu'il y avait deux propositions pour ce soir. La deuxième, c'est une conférence qui aura lieu également à Pau, qui est proposée par Foi et Culture.
Oui, alors cette fois, c'est donc à l'église Saint-Paul. C'est une conférence qui a lieu de 20h à 22h sur le thème « Mettre en œuvre la synodalité ». Donc ça fait partie du cycle de ces conférences de Foi et Culture dont le thème de l'année retenu est « Faire corps ». Donc voilà, je vous invite ce soir à 20h à l'église Saint-Paul pour réfléchir sur la synodalité.
Sur la synodalité, voilà. On va parler maintenant, on va prendre la direction de Nay. La communauté des Béatitudes propose toujours des semaines un peu particulières. Cette fois-ci, on va associer le tennis et la prière.
Tout à fait, donc c'est une semaine tennis et prière dont le thème est être bien dans ses cordes, voilà, toujours dans le souci de soigner le corps et l'âme, pas besoin d'être Raphaël Nadal ou Alcaraz pour participer, juste prendre sa tenue de sport, voilà, l'idée c'est de pouvoir vivre ce temps de retraite en même temps donc de prendre soin voilà de son corps, de se défouler mais également de prier. Donc toute cette semaine du 27 avril 17h au 3 mai 14h à Nay, à la communauté des Béatitudes.
Voilà, c'est vrai que la communauté des Béatitudes propose toujours c'est les propositions qui changent de l'ordinaire, hein.
Oui, tout à fait. Et puis il y a toujours, cette alliance du corps et de l'esprit. Oui. Je trouve c'est vraiment l'unité que l'on peut rechercher aussi dans notre vie au quotidien, de pouvoir, être en union et de pouvoir, à la fois prier et à la fois se sentir bien dans son âme et son corps.
Exactement. Nous prenons maintenant la direction de Morlaàs puisque la formation permanente du Béarn nous propose une soirée le 30 avril.
Oui, donc le 30 avril de 18 à 20h à la maison paroissiale de Morlaàs, une soirée de prière, donc de Lectio Divina, du récit de l'évangile de Saint Matthieu, pour pouvoir goûter la saveur catéchétique, ecclésiale et fraternelle autour de cette Lectio Divina qui est animée par Anne Duteil, donc le jeudi 30 avril à 18h.
Voilà pour la formation permanente du Béarn. Et puis, on va terminer par parler d'un pèlerinage.
Oui, le grand pèlerinage provincial des familles pour les vocations qui a lieu donc le 1er mai à Bazas. Il nous faut des vocations religieuses et sacerdotales, donc allons marcher, prier, et il y aura également une conférence du père Vincent Brenhardt, qui est l'ancien directeur du service national de la pastorale à la conférence des évêques de France. Donc toute cette journée du 1er mai, toutes les informations et les inscriptions sur le site du diocèse, bien sûr, diocèse64.org. C'est vraiment un pèlerinage en famille. Le parcours est assez simple pour que nous puissions venir avec nos enfants, toutes les générations, pour vraiment prier ensemble pour cette vocation dont notre Église a tant besoin.
Exactement, vous avez bien fait de le rappeler. Alors bien sûr, on rappelle que on a donné 5 nouvelles aujourd'hui, hein, Nathalie, mais il y a d'autres propositions sur le site du diocèse, hein.
Oui, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir l'agenda, à la fois l'agenda du Pays Basque et du Béarn. Vous avez beaucoup encore d'autres informations à venir. On en reparlera la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à venir consulter notre site diocèse64.org.
Voilà, merci beaucoup Nathalie Chambon. Eh bien, écoutez, on se retrouve, vous l'avez dit, la semaine prochaine. On sera en compagnie de Gilles, avec qui vous avez l'habitude de faire, bien sûr, ce petit rendez-vous agenda. Très belle semaine à vous et puis à très bientôt.
À très bientôt, cher Philippe. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Présence sur le COS 106.5. We'll be right back.
Enfin, je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime.
Laurent Voulzy, hommage à toutes les jeunes qui nous écoutent.
Présence à Cajarc, 97.7.
Nous allons partir pour Tarbes tout de suite avec Anne-Rose Jankovic. Elle est aux Forges de Tarbes, qui est une filiale du groupe Europlasma depuis 2021. Son histoire est conjointe à celle de l'Arsenal de Tarbes, créé en 1871. La société fondée en 2020 sous le nom de Tarbes Industries est aujourd'hui composée d'une usine spécialisée dans les corques pour les industriels de la défense. On retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité. C'était une interview qu'elle a enregistrée ce matin.
Que se passe-t-il sur le site industriel des Forges? La seule entreprise française qui produit des cordes au but se trouve dans le quartier de l'Arsenal à Tarbes. Aujourd'hui, l'entreprise est embarquée dans un feuilleton judiciaire et attire l'attention d'une commission parlementaire qui s'interroge surtout sur l'identité de la société d'investissement qui se cache derrière le fonctionnement du site. Le fonctionnement, ou disons plutôt le dysfonctionnement, si on en croit les retours des syndicats. Les forges produisent des outils de guerre. On préférait avoir à s'en passer, évidemment, mais le contexte géopolitique contraint à s'intéresser à cette niche industrielle. José Novaro est le secrétaire de la CGT des Hautes-Pyrénées. Il connaît bien le dossier. L'un des problèmes des forges, nous dit-il, est que nous avons sous la main un outil industriel désuet qui nécessite une remise à niveau et donc un investissement. Et c'est là que le bât blesse pour commencer. José Navarro.
Alors les forges de Tarbes, ce sont un peu les héritiers de ce qu'avait été l'arsenal. C'était un des derniers, je dirais, reliquats de ce qu'avait été l'arsenal. Et elles ont été créées en 2021 par la reprise d'une entreprise qui s'appelait Tarbes Industrie. Et Europlasma est intervenu dans le cadre de négociations qui avaient été menées et ils ont créé les forges de Tarbes. L'objectif initial de ce groupe Europlasma étant de diversifier l'unité industrielle qui était spécialisée dans la production, je dirais, de l'armement et de développer une technique qui s'appelait les torches à plasma pour traiter les déchets industriels, les déchets amiantés. Cette diversification n'a jamais été menée à bien par Europlasma. Et donc les forges de Tarbes, aujourd'hui, appartiennent à Europlasma, qui vient de faire un certain nombre d'annonces industrielles très intéressantes, mais je pense qu'on y reviendra.
Voilà, on va y revenir. Alors quand même, il faut dire que la spécialité de ce site, c'est la fabrication de corps creux pour des obus de canon. Ça, c'est le savoir-faire spécifique des forges de Tarbes. Donc c'est l'héritage de ce qu'était l'arsenal.
C'est l'héritage de ce qu'était l'arsenal, sachant que lorsque GIAT Arsenal a fermé, il y avait une entreprise qui avait repris, qui s'appelait Valourec. Mmh. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, c'est des salariés qui ont subi, je dirais, plusieurs sinistres industriels. Valourec reprend ce site, décide de s'en séparer en 2018, oui. Ferme. Un serial repreneur de l'époque à capitaux franco-belges qui s'appelle Altifor reprend l'unité, est mise en liquidation. Arrive Monsieur Supplisson, ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, et ensuite arrive Europlasma. Et donc effectivement, c'est l'héritage de, et ils produisent ce que vous avez dit, et c'est des corps d'obus bien particuliers qui sont des obus de 155 qui viennent alimenter les canons César, fameux canons César qui sont aujourd'hui utilisés sur le front ukrainien. Et donc je dirais que Europlasma a bénéficié en tout cas d'une actualité assez dramatique qui est aujourd'hui le développement des conflits guerriers aux portes de l'Europe, en Ukraine. Et c'est la seule entreprise française qui produit des corps d'obus. C'est le seul.
Donc plutôt un contexte favorable, malheureux mais favorable pour ce genre d'usine. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que Europlasma rachète donc les forges en 2021 et dans la foulée rachète aussi le site de Valdunes, c'était en 2024, et puis les fonderies de Bretagne en 2025. Quel était l'objectif ou le sens de racheter ces trois sites quasiment en même temps ?
Alors, je dirais le sens. Ce qui s'est passé, c'est que les deux sites dont vous avez parlé étaient en grande difficulté, en procédure judiciaire, et que l'État en tant que tel cherchait des repreneurs. Fonderie de Bretagne, c'est un sous-traitant historique de Renault. Donc ils le rachètent, mais ils le rachètent en disant très clairement qu'ils vont pas faire sous-traitant automobile, mais qu'ils vont requalifier l'unité industrielle pour la dédier à l'armement.
Donc un peu surfer, si je puis dire, sur la vague du contexte géopolitique tendu pour faire une espèce de conversion des deux autres sites qui n'étaient pas faits pour l'armement à la base.
L'autre site est en Valdunes, dans le Nord, fonderie de Bretagne, comme son nom l'indique, c'est en Bretagne. Valdunes, c'est dans le Nord, c'est produit toujours des essieux pour les trains et des routes de train. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils produisent pratiquement plus rien ou assez peu. Et l'objectif étant également de reconvertir Valdunes sur le domaine de l'armement. Voilà ce qu'annonce Europlasma lorsqu'ils rachètent. Et il faut bien dire les choses comme elles sont. Comme ça s'est passé pour lorsqu'ils ont créé Forges de Tarbes, ils sont à l'époque les seuls repreneurs. Donc voilà, ils reprennent. Il y a plus de 200 salariés à Fonderie de Bretagne. Je n'ai plus en tête les chiffres du nombre de salariés à Valdunes. Ce sont des sites industriels historiques. Et la crainte était de les voir disparaître.
Alors qu'ici, les forges de Tarbes, il y a un peu moins de salariés, hein, c'est 70 salariés.
C'est ça. Forges de Tarbes, lorsqu'ils les reprennent, ils sont beaucoup moins, ils doivent être une quarantaine. Ouais. Et depuis, ils sont passés à 72, sachant que dans les 72 ou 73, il y a 60 salariés en CDI, il doit y avoir 2 ou 3 alternants, et le reste, c'est le volant de intérimaire.
Pour que Europlasma réussisse à déployer les forges comme il avait promis de le faire, donc avec une activité en plus, et réussisse aussi à convertir les activités des deux autres sites en Bretagne et dans le Nord, il fallait des investissements, peut-être de l'État ou des collectivités ?
Bien sûr. Alors, moi, je ne vais pas parler pour les fonderies de Bretagne ou Val d'Une. Je ne connais pas les conditions de la reprise exacte avec le plan d'investissement. Ce que je sais, c'est qu'ici, lorsqu'ils ont repris Tarbes Industrie pour créer Forge de Tarbes, il y avait un plan d'investissement sur 4 ans qui devait être de 12 millions d'euros. La première chose étant une recapitalisation de l'entreprise. Ils ont amené les 2 millions d'euros en capital et ils devaient faire un certain nombre d'investissements qui devaient les amener à 12 millions d'euros d'investissement. Ces investissements ne se sont pas produits. C'était des investissements, entre autres, de diversification, mais pas que. On ne les a pas eus. Par contre, il y a eu, on peut estimer qu'il y a à peu près 6 à 7 millions, 6 millions d'investissements. Par contre, il y a eu des aides publiques qui ont été attribuées. Alors, je vais rentrer un peu dans la technique. Le ministère de la Défense, le ministère des Armées avaient attribué ce qu'on appelle un article 90. C'est pour les investissements en portée d'export pour l'exportation. Et sur cette avance remboursable qui était de un peu plus de 7 millions d'euros, on est sûr qu'il y a plus de 5 millions d'euros qui ont été versés par l'État. Donc l'État s'est engagé. Ça veut dire que l'État et les pouvoirs publics étaient disposés à accompagner le programme d'investissement d'Europlasma. Mais encore faut-il que le programme d'investissement d'Europlasma, il se fasse.
Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Jérôme Garnache-Cruyot, le PDG d'Europlasma, avait promis 150 000 cordes obus fabriquées par an. Or, les salariés témoignent que parfois, eh bien, les machines sont à l'arrêt parce que en panne ou à cause d'un manque de matières premières. Et puis, c'est assez étonnant, les salariés témoignent aussi qu'en 2025, les forges n'auraient finalement même pas produit la moitié des 150 000 obus promis. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ça? Et est-ce que c'est possible d'avoir cette telle différence entre les promesses et finalement la réalité? Et qu'est-ce que ça veut dire au fond?
Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. Premièrement, je ne suis pas dans l'entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je dirais que ce sont les dirigeants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après avoir dit qu'ils étaient sur des bases de 150, 160 000 cordes obus, la réalité est arrivée toute crue lors de la commission. Alors, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a une commission d'enquête parlementaire qui est en cours depuis le mois de fin janvier. Et les dirigeants ont été auditionnés le 2 avril. Ils ont reconnu deux choses. Nous, on dénonçait depuis un certain temps, c'est qu'effectivement, le niveau de production n'était pas celui-là. Donc, ils reconnaissent qu'on est à 70 000 et non pas à 150 000. Donc, 70 000 sur l'année, à peu près, voilà. Et ils reconnaissent autre chose, ce sont les arriérés de paiement et les difficultés de trésorerie. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'unité Forge de Tarbes, de temps en temps, il y avait des arrêts de production. Il y en a eu, y compris.
Et pourquoi ?
Eh bien, il y en a eu. D'abord parce que l'outil industriel, qui est un outil de qualité, a besoin de maintenance, parce que tous les investissements n'ont pas été faits, donc des fois il faut arrêter, voilà. Mais au-delà de ça, il y a surtout le fait que pour s'approvisionner en matière, c'est de l'acier, il faut payer l'acier. Bon, voilà. Il s'avère qu'il y avait des difficultés de trésorerie. Ils l'ont reconnu devant la commission d'enquête parlementaire, qui fait qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement. Au jour d'aujourd'hui, les ruptures d'approvisionnement, d'après ce que j'en sais, ne se font plus pour la bonne et simple raison que sur le site, Nexter, KNDS, qui est le donneur d'ordre historique et qui est un consortium franco-allemand, a de l'acier stocké sur site et il a donné l'autorisation à ce que cet acier soit utilisé par Forge de Tarbes. Mais il y a eu pendant l'année 2025 des ruptures et tout ça parce qu'il y a effectivement des difficultés de trésorerie.
Et comment c'est possible, malgré les investissements, des millions d'euros qui ont été investis et injectés pour aider au début
Bon, moi je vais parler de ce que j'en connais, des forges de Tarbes et des réunions qu'on a pu avoir au moment où la reprise était faite avec les services de l'État, que ce soit la préfecture, le ministère des Armées. C'est qu'il y a un besoin d'investissement. Et pour être rentable, il faut qu'effectivement les investissements se fassent. et qu'on ait un niveau d'efficacité qui n'a pas été celui de Forges de Tarbes. Puisque Forges de Tarbes, depuis la reprise par Europlasma, a cumulé des pertes, des résultats nets négatifs, qui font que les 2 millions de capital qu'ils avaient apporté ont été engloutis. Et au 31 décembre 2024, je ne connais pas les comptes 2025, mais les comptes 2024 qui avaient été rendus publics, témoignait de capitaux propres, ce qu'on appelle le capital de l'entreprise, capitaux propres de l'entreprise, était négatif de moins 3,2 millions, c'est-à-dire qu'il les avait engloutis par les pertes. Alors comment je l'explique ? Eh bien, par un manque de rentabilité. Comment je l'explique ? Par le fait qu'on ne soit pas au niveau du seuil de rentabilité, qu'on ne produise pas assez et qu'on ne produise pas de manière assez efficace. Alors pas à cause d'un manque de savoir-faire, les salariés sont là depuis des années et ils savent. C'est pas ça qui manque. Il y a des techniciens de maintenance qui sont très bons, ils sont bons, ils savent. Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir produire avec un haut niveau de qualité et d'efficacité, bah, il faut également un outil industriel à la hauteur. C'est un outil industriel qui aurait nécessité des investissements qui ne sont pas venus.
Voilà pour la première partie de cet entretien réalisé ce matin au sujet des forges de Tarbes. On retrouve Anne Rose de Jankovic et son invité dans quelques petites minutes. On va marquer une pause musicale. On retrouve le chanteur Pascal Obispo et puis le journal de la mi-journée. Très belle chanson signée Pascal Obispo, un instant avec l'important, c'est d'aimer.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et on retrouve tout de suite Jenny Chieb, pour l'actualité régionale dans notre belle région. Bonjour.
Le barreau de Toulouse a confirmé la poursuite de son mouvement de grève contre la réforme de la justice criminelle, car selon les avocats, le projet de loi nommé SUR affaiblit d'abord les droits des victimes, en cause des durées plus courtes pour s'opposer à certaines procédures, mais aussi l'absence d'audience dans certains cas. Malgré l'avis favorable du Sénat, les avocats réclament le retrait de ce texte avant son adoption définitive. Dans les Hautes-Pyrénées, l'État a dépensé 3,2 millions d'euros pour gérer un unique foyer de dermatose nodulaire contagieuse. Cette somme couvre surtout les indemnisations des éleveurs, la vaccination et les analyses. Aucun nouveau cas n'a été détecté depuis janvier 2026, mais 26 communes du département restent sous surveillance autour du foyer initial. Dans ces zones, les éleveurs ne peuvent toujours pas exporter leurs bovins vers l'Espagne et l'Italie. L'Office national des combattants du Lot recherche les noms de soldats morts en Indochine entre 1945 et 1954. Cette démarche vise à compléter la liste du monument commémoratif de Cahors avant son inauguration en juin. 15 noms ont déjà été retrouvés, mais l'organisme sollicite les familles pour identifier d'autres oubliés. Les habitants sont invités à partager archives, photos ou récits concernant leurs ancêtres liés au département. Une classe dédiée aux jeunes sapeurs-pompiers ouvrira au lycée Jean Jaurès de Sainte-Afrique à la rentrée prochaine. Un projet annoncé par Anne Faurie Herbert, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron. Ce projet vise à former les élèves aux gestes de sécurité civile et à renforcer leur conscience des risques locaux. L'initiative repose sur une collaboration entre l'éducation nationale et les services de secours du territoire. Le conseil municipal a voté ce lundi un plan budgétaire pour le réaménagement de la place Chapou. L'État subventionne à hauteur de 100 000 euros la piétonnisation. L'objectif est d'empêcher que le parvis de la cathédrale Saint-Étienne ne devienne un parking. L'autre enjeu est de rafraîchir la place en plantant des arbres et des carrés d'herbe. Enfin, les élus ont voté l'extension du système de vidéosurveillance. 10 caméras seront ajoutées. Domus Vie, acteur majeur de l'accompagnement des seniors depuis 1983, signe un partenariat avec l'école de management TBS Éducation à Toulouse. L'objectif de ce programme est de renforcer les critères d'excellence académique et de former au management des maisons de retraite, mais aussi de sensibiliser les futurs dirigeants d'EHPAD aux réalités du terrain. La première promotion réunit 11 collaborateurs, tous issus de Domus Vie. Le programme vient de débuter sur le campus de Toulouse et durera 18 mois.
Voilà, merci.
Présence à Foix 100.2.
Voilà, je disais merci beaucoup à Jenny Litchi Tieb de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse qui nous a présenté l'actualité à la mi-journée. On retrouvera bien sûr l'actualité d'ici quelques minutes à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Que se passe-t-il pour le site des forges à Tarbes ? Commission d'enquête, rumeurs de vente, qu'en est-il vraiment ? Quel avenir pour cette usine dédiée à la fabrication des corps creux d'obus ? Anne-Rose Jankovic est allée enquêter ce matin. Je vous propose d'écouter la deuxième partie de son entretien.
On vous retrouve, José Navarro, pour la deuxième partie de cet entretien. Et vous nous dites qu'il y a un besoin, malheureusement, il y a ce besoin de production aux forges de Tarbes. Il y a ce besoin, il y a cette compétence, oui. Ce savoir-faire unique qui est ici à Tarbes. Il y a les machines, il y a l'investissement, mais il y a des machines qui sont pas à la hauteur du besoin. Non. Et en fait, c'est le seul problème aujourd'hui.
Ben, je pense que c'est un des problèmes, parce que de toute manière, et quand je le dis sur la base de... Vous savez, lorsque Europlasma est entré, je dirais, dans le jeu, et a été considéré comme le seul repreneur, il y avait en place un monsieur qui s'appelait monsieur Gérard Gibault, qui était un contrôleur général des armées, qui avait été nommé par la ministre des armées de l'époque, qui était Florence Parly, commissaire du gouvernement. Mmh. Il avait fait un certain nombre de rapports, il était là pour ça, pour essayer de voir comment pouvait se mettre en place un plan industriel digne de ce nom. Une des premières choses qu'il avait fait apparaître, c'est il faut mettre cet outil industriel à niveau pour éviter les arrêts, les pannes, tout ça, lorsqu'on arrête un outil industriel de cette taille-là, forcément, ça conduit à des coûts. Et donc, il disait, il faut une mise à niveau. Cette mise à niveau, elle n'a pas été faite de manière suffisante. Et ça explique en grande partie les pertes. Mais en tout cas, nous, ce qu'on y voit, c'est qu'une commission d'enquête parlementaire s'est ouverte, que des questions ont été posées, que les dirigeants n'y répondent pas vraiment. D'ailleurs, ils vont être réentendus cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire, et que on vient d'annoncer, à l'issue de cette première audition du 2 avril, la vente du pôle défense. Ils n'ont cessé de dire qu'ils allaient investir, qu'il fallait croire en eux, qu'ils étaient l'avenir, et ils nous annoncent, il y a de ça 10 jours, on vend tout.
Alors on va revenir sur cette histoire de vente, mais quand même, l'autre problème, c'est qu'on apprend aussi que derrière Europlasma, celle qui tire les ficelles serait ou est une société d'investissement qui s'appelle Alpha Blue Ocean. Alors d'abord, c'est quoi cette société, oui. Et puis quel est le problème, en fait, qu'il y ait une société d'investissement derrière qui, on peut dire qu'ils tirent les ficelles ou qu'ils soutiennent.
Voilà. Alors, s'ils soutenaient, peut-être que ça serait pas un problème. Mais Alpha Blue Ocean, parce que c'est ça, ABO, détient la majorité du capital d'Europlasma. Alors, première chose, ce n'est pas, je dirais, on n'est pas dans l'inconnu. On savait, hein, lorsque Europlasma décide de se porter acquéreur du site qui s'appelait Tarbes Industries pour créer Forge de Tarbes, ouais. On sait. Et quand je dis « on », la collectivité sait et l'État sait, puisqu'en fait, ce plan de reprise a été validé par le ministère de l'Économie et le ministère des Armées. Ils savent que c'est Alpha Blue Ocean. Et on sait à l'époque qu'Alpha Blue Ocean a son siège social aux Bahamas. D'accord ? Qu'il s'agit d'un fonds d'investissement. Et donc, on peut se dire, c'est un peu étonnant que sur une activité stratégique de fabrication de matériel de guerre, on aille chercher un actionnaire qui est dans un paradis fiscal. Bon, voilà. Je dirais que c'est pas traditionnel dans l'histoire de la France. Hein. C'est pas traditionnel qu'une industrie d'armement ait son capital dans un paradis fiscal. Donc, c'est un paradis fiscal. Mais après, ce qui est arrivé, et qu'on le voit au travers de la commission d'enquête parlementaire qui s'est ouverte en janvier. Cette commission d'enquête parlementaire, elle n'est pas fixée uniquement sur Europlasma. Elle est fixée sur un sujet qui est la prédation des fonds d'investissement sur le tissu industriel français. Et en fait, le fait que aujourd'hui, il y a des investisseurs comme ABO qui, lorsqu'ils reprennent des entreprises, n'ont pas vocation à les développer industriellement, mais à faire, entre guillemets, des coûts boursiers et des coûts financiers.
Donc, en fait, cette commission d'enquête, elle n'a pas été lancée parce que l'État s'est penché spécialement sur le problème des forges de Tarbes, mais les forges de Tarbes sont englobées dans ce problème qui est beaucoup plus large, et c'est ça qu'essaie de démontrer la commission.
La commission d'enquête parlementaire, alors c'est pas une initiative gouvernementale, une commission d'enquête parlementaire, comme le dit son nom, ce sont les parlementaires qui la lancent. L'objet de cette commission d'enquête parlementaire, c'est de mettre à jour qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des fonds prédateurs qui reprennent des sites industriels et qui, en fait, soit les démantèlent, soit font des opérations boursières, et dans le lot, il y a eu Europlasma. Et leur volonté a été de dire, nous allons entendre les dirigeants.
Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité de pointer du doigt et d'être un peu attentif de plus près à ce qui se passe ici ?
Alors moi, je pense que l'opportunité, elle est évidente, non pas pour le plaisir de, entre guillemets, de se faire un patron. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, il y a des salariés qui travaillent avec un savoir-faire, une unité industrielle très spécifique. Est-ce qu'on les laisse entre les mains de ces personnes ou est-ce qu'elles apportent les assurances ? Et je crois que c'est l'opportunité, c'est d'aller au fond des choses et de savoir quel peut être l'avenir ici des forges de Tarbes. Mais moi, je sais qu'il y a une inquiétude ici, mais il y a une inquiétude énorme aussi à Fonderie de Bretagne, il y a une inquiétude énorme à Val-d'Une, parce que les gens sont dans l'expectative. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Si effectivement aujourd'hui ce qui se met à jour, c'est qu'on a un fonds d'investissement qui n'a pas, je dirais, les moyens de ses ambitions. Et la preuve en est, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils s'en défendent.
Alors justement, vous le disiez, le 10 avril dernier, Europlasma annonce qu'il souhaitait ou était sur le point de vendre ses activités de défense, donc notamment les forges. On pourrait dire les autres sites aussi, mais comme ils n'ont pas fait cette conversion, on peut se poser la question. Alors pourquoi ils vendent ? À qui ils veulent vendre ? Et puis comment ? Enfin, c'est-à-dire à quel montant ? Comment on vend les activités d'armement quand elles sont dans l'état que vous nous décrivez ?
Alors déjà, pour vendre des activités d'armement, il faut l'accord de l'État. Donc voilà, on est dans un secteur d'activité très particulier qui fait que vous avez beau être une société privée, si vous n'avez pas les accords de l'État, vous ne faites rien. Ouais. Première chose, vous n'avez pas le droit d'exporter, vous n'avez pas le droit de vendre, vous n'avez pas le droit de produire si l'État n'est pas d'accord pour que vous le fassiez. Bon, ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que vous avez donné une date qui est le 10 avril. Le 2 avril, M. Jérôme Garnache-Creuilleux et son administrateur, qui est M. Laurent Collet-Billon, j'insiste sur M. Laurent Collet-Billon, parce que c'est un ancien directeur général de l'armement, haut fonctionnaire. Il a été à la tête de la DGA pendant 17 ans. Et quelque part, c'était une sorte de caution morale. Pour les salariés de Forges de Tarbes, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, tiens, il y a quelqu'un de solide, là, qui est un grand commis de l'État, comme on dit. Bon, bah, ces deux personnes n'ont rien dit du fait qu'ils étaient en train de réfléchir à se séparer de leur activité défense. Et ils l'annoncent le 10 avril. Et ils l'annoncent dans des termes très particuliers. Ils disent, on vend tout. C'est-à-dire, on vend Fonderie de Bretagne, on vend Val-d'Une, on vend bien évidemment Forges de Tarbes, on veut vendre en tout cas. Et ils annoncent même qu'ils veulent mettre en vente un projet qui était à l'état de naissant, qui est Forges de Gerza, dans le centre de la France. Donc 4 unités, ils disent, on en veut 150 millions d'euros.
Mais voilà. À qui peuvent vendre ces activités-là?
Alors, nous, on ne sait pas. Ce qu'on a su, par contre, c'est que cette annonce a fait bondir le cours de l'action d'Europlasma de 150%. Voilà. 150 millions, 150%, voilà. Ça, c'est une chose. Alors après, à qui? Qui va racheter ces sites qui sont dans un état pas forcément... D'abord, il y en a qui doivent être reconvertis, comme on l'a dit. Fonderie de Bretagne, Val-d'Une, il y en a un qui est dans le secteur de l'armement mais qui a besoin d'investissement pour se mettre à niveau. Et ils ouvrent une négociation, ils l'ont dit eux-mêmes, jusqu'au 26 octobre 2026. Alors après, la question qu'on s'est posée nous et qu'on a pensé être la bonne réponse, c'était de se dire, à l'époque, lorsque Europlasma a repris l'entreprise, nous, en tout cas les salariés, disaient, nous on privilégie KNDS, Nexter, qui est en fait le donneur d'ordre. Et la réponse qui avait été faite à l'époque, on l'avait mis sur la table, c'était que KNDS ne voulait pas réinternaliser et voulait que ce soit un sous-traitant. Et donc KNDS a dit, nous, on n'internalisera pas chez nous. Alors, est-ce que cette donnée a changé? J'en sais rien.
Moi, je voudrais qu'on parle des salariés, parce que c'est important. D'abord, comment ils vont aujourd'hui? Comment ils tiennent? Est-ce que l'activité a repris de manière à peu près normale pour eux, malgré, on l'a bien compris, l'état des machines et des outils? Et quel avenir pour eux? Et puis, selon vous, quel serait le scénario le plus favorable, à la fois pour le site, mais pour les salariés?
Alors moi je crois que pour le site, et quand on parle du site, on parle des salariés. Alors est-ce qu'ils produisent actuellement? Oui, ils produisent. Socialement, en interne, les salariés sont à la fois... D'abord, ils sont inquiets. Ils étaient inquiets depuis des semaines et des mois. On annonce la vente. Alors à la fois, ça peut être un mélange et d'inquiétude et de soulagement. Si effectivement il y a un acteur digne de ce nom, un vrai industriel, non plus un financier, qui reprend l'entreprise... Et alors, on a tous en tête KNDS, mais si KNDS reste sur les mêmes bases qu'il y a 3 ans, est-ce qu'ils reprendront? On n'en sait rien. Ça serait de nature à les rassurer. Sinon, qui sont les repreneurs? Quel est le projet? Bon, eh ben, les salariés, ils demandent ce qu'ils ont demandé depuis toujours.
Alors, pour terminer, José Novarro, qui a le levier pour interagir? On peut pas tout le temps tout miser et toujours compter sur les syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la balle n'est pas dans le camp de l'État? On peut pas imaginer que ce soit les syndicats à eux seuls qui puissent être les leviers pour faire bouger les choses.
Les syndicats, ils peuvent faire bouger les choses, mais bien évidemment, eux ne détiennent pas les clés des solutions. Par contre, ce qu'ils exigent, c'est effectivement l'acteur que vous avez donné, c'est l'État. Aujourd'hui, nous demandons, mais pas seulement aujourd'hui, les salariés n'avaient cessé de demander au préfet actuel, M. Salomon, de réunir des commissions de suivi industriel. Le contrôleur général des armées dont je vous ai parlé disait exactement la même chose. Il fallait mettre, entre guillemets, l'entreprise un peu sous surveillance du fait de son secteur très particulier. Donc aujourd'hui, nous disons à l'État, voilà, il faut aujourd'hui que vous garantissiez que sur ce site industriel dont vous avez dit que vous tenez à ce qu'elle soit préservée et développée, que vous donniez des garanties.
Voilà donc pour les explications de José Navarro. Plusieurs questions subsistent donc. Pourquoi tout le monde s'offusque aujourd'hui que la société d'investissement ABO fasse son beurre sur les forges, alors que ce même monde savait bien qu'elle était derrière Europlasma dès le début? KNDS Nexter va-t-il changer son fusil d'épaule et se positionner comme racheteur des forges si le site s'avère être bel et bien en vente? Et puis, à quoi pourrait aboutir la fameuse commission d'enquête
toujours en cours. En attendant, les salariés s'interrogent, ils posent des questions, ils veulent savoir ce qu'il va advenir de leur savoir-faire industriel et ils ont le sentiment aujourd'hui que leurs questions sont un tantinet dérangeantes.
Un grand merci, Anne-Rose Jankovic. Voilà, interview que Anne-Rose Jankovic a été enregistrée, faire ce matin, donc directement, donc sur le lieu, sur les forges à Tarbes. Et on pense bien sûr au personnel qui est inquiet. On va continuer, on va être beaucoup plus léger, puisque hier on avait mis à l'honneur Victor Hugo à travers un musée qui se trouve donc à Juillan. Et bien aujourd'hui, c'est Anne Lasserre qui revient avec un extrait donc de Victor Hugo qui a écrit sur les Pyrénées.
Présence à Montauban, 93.3.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
La semaine dernière, on se quittait en disant que l'auteur de cette semaine, c'était le monsieur, hein, monsieur écrivain, c'est monsieur Victor Hugo. Hein.
Oui.
Ouais. Aujourd'hui, nous allons donc à Pau et à Cotteret, en compagnie, ben voilà, on l'a dit, un des plus grands écrivains, monsieur Victor Hugo.
Et il vient Philippe à Cotteret, parce qu'il suit une cure en 1843. Il a beau être un grand écrivain, il souffre comme nous, et il souffrait de rhumatisme et de problèmes aux yeux.
Avant de se rendre à Cotteret, il séjourne à Pau. Et dans le passage que vous avez retenu, il évoque Antoine de Bourbon, qui est le père de notre bon roi Henri IV.
Henri IV, dont la mère, Philippe, n'est autre que Jeanne d'Albret, fille de Henri II, roi de Navarre.
Il dit aussi que le tremblement de terre de Lisbonne, qui a eu lieu le 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint, a été ressenti jusqu'à Lourdes.
Oui, et ce tremblement de terre a fait de très nombreuses victimes. Une énorme vague a détruit le port. Des incendies ont brûlé pendant plusieurs jours.
Par son intensité, ce tremblement de terre a marqué les esprits de nombreux penseurs européens en ce milieu du XVIIIe siècle.
Voltaire, par exemple, Philippe, écrit un poème sur le désastre de Lisbonne et il évoque à nouveau ce drame dans son célèbre conte philosophique, Candide.
En tout cas, on comprend en lisant Victor Hugo pourquoi il avait toujours un carnet dans sa poche. Il était intéressé par tout ce qu'il voyait. Voilà, c'est quand même incroyable. Lisbonne,
oui,
Lourdes,
oui.
Ça fait un bout, hein,
oui, oui.
Pour l'avoir fait en voiture.
Oui. Mais il paraît que ça a été un tremblement de terre épouvantable.
Ah ben oui, parce que...
Qui a détruit la ville de Lisbonne.
Oui, parce que Lisbonne-Lourdes, c'est presque Lourdes un peu plus loin que Paris.
Hein. Ah oui.
Donc ça a dû trembler. Ah non, on vous écoute donc avec l'auteur de cette semaine, M. Victor Hugo.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
On connaît de Victor Hugo son ouvrage posthume, En voyage, Alpes et Pyrénées. On connaît moins ce qu'il écrivit dans ses carnets au cours du séjour qu'il fit dans les Pyrénées, en août 1843. Il était venu à Cotteret soigner des rhumatismes et des ophtalmies. Dans ses carnets, il en a toujours un dans sa poche. Il prend des notes. Il ne rédige pas forcément des phrases. Voici ce qu'il écrit dans l'un de ses carnets quand il quitte Pau pour Cotteret. Pau, ville gaie, jolie, propre, un peu trop refaite et remaniée, ce qui lui ôte son air historique. La tranchée que fait le vieux fossé à travers la ville a conservé seule l'ancienne physionomie du pot d'Antoine de Bourbon. Vieille maison d'ardoise, cahotée, coupée d'accidents curieux d'architecture, étalant à tous leurs étages les verrues originales et bizarres de la maçonnerie domestique du XVe siècle. 6 heures du matin, il pleut. La pluie en haut, le gave en bas, mêlent leur bruit. Route pittoresque, ombragée, verte et gaie, malgré le mauvais temps. Les Pyrénées à l'horizon, sommets cassés, mâchés, tordus, pétris, comme tripotés par la main formidable d'un géant. Petit lac de neige dans les trous. On n'entend plus ici ces appellations éclatantes jetées à toute voix par les muletiers espagnols à leurs mules. En avant, la générale, la capitaine. Le cocher béarnais dit à ses juments, en patois et à demi-voix, avec l'accent tantôt goguenard, tantôt caressant, « En avant la grise, la blonde !» Dans un village, cette inscription sur une porte, « L'Okea des serres ne puede faltar. » On sent le voisinage de l'Espagne. Ici, les toits d'ardoise, partout, toits aigus, inclinés pour l'écoulement des neiges et des pluies. Faites quelques lieues, traversez ces montagnes, vous trouvez les toits plats, les tuiles creuses. Ici, les villages des Ardennes, là, les villages de la Calabre. Le nord est sur un versant des Pyrénées, le midi sur l'autre. Saint-Pé, charmante ville, avec des vestiges du XVe et du XVIe siècle. Les paysannes sortent de la messe en longue file, vêtues de noir, avec des capuchons gris, blancs, rouges. On dirait des processions de religieuses de tous les ordres. À Cotteray, l'effet est encore plus étrange. Elles ont le capuchon gris et les pieds nus. Lourdes, arrivée magique, magnifique donjon du XIIIe siècle sur un rocher. Le Gave d'un côté, la ville de l'autre. Au fond, les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d'où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des Hautes-Pyrénées qui s'épanouit à Vidalos, s'écarte et se divise en quatre ravins et forme cette immense patte d'oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l'occident, Arbeoste, par la vallée d'Estrême de Sales et Aucun par le Val d'Azun. Au midi, Cotteray, par le détroit de Pierrefitte et au levant, Barège, par le défilé de Luce. La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche, comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755, elle ressentit le contre-coup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen-Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd'hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage. Rien de plus poignant que les ruines de l'homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau, qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l'antique Castrum Emilianum, bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beausens. Les signaux s'enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luce, jusqu'au château de Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie, jusqu'à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées, comme les burgraves du Rhin, s'avertissaient les uns les autres. En quelques heures, les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C'est le peuple des montagnes qui a donné à l'un de ces châteaux, près du col d'Ossau, le nom de « Bon Château » qu'il garde encore, Castel Loubon. Victor Hugo ne se déplaçait jamais sans un carnet, sur lequel il dessinait, prenait des notes sur place, notes qu'il exploitait en revenant chez lui, car tout l'intéresse, les paysages, l'histoire locale, les gens. Lorsqu'il se rend dans les Pyrénées en 1843, il est accompagné par Juliette Drouet et il voyage incognito, ne donnant, quand il doit se nommer, que la deuxième syllabe de son nom, qu'il laisse orthographier selon la fantaisie du questionneur. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Victor Hugo, intitulé « Voyage aux Pyrénées », suivi du journal de Juliette Drouet, ouvrage publié par les éditions Cairn en 2014.
Alors Anne, on peut quand même préciser aux auditeurs que vous avez fait la préface de cette nouvelle édition du « Voyage aux Pyrénées » de Victor Hugo.
Je l'ai fait, Philippe, à la demande des éditions Cairn, qui voulaient rééditer cet ouvrage en le faisant suivre du journal tenu par Juliette Drouet, hein, qui accompagnait Victor Hugo.
Et ce qui vous a intéressé, hein, je crois, c'est que Victor Hugo et Juliette Drouet ont des regards bien différents sur les Pyrénées et leurs habitants, même s'ils voyagent ensemble.
C'est exactement ça, Philippe. Juliette Drouet, elle tient un journal, comme pourrait le faire un intendant, un économe. Tandis que sous la plume de Victor Hugo, les paysages s'animent, prennent vie.
Eh oui. Juliette Drouet, elle est terre à terre. Elle note les dépenses, les menus, les heures d'arrivée et de départ de la diligence. C'est moins poétique. Mais elle donne des renseignements intéressants sur la vie dans les Pyrénées au XIXe siècle.
Assurément, et c'est pour cela que c'est intéressant, parce que Victor Hugo lui porte surtout un regard empreint de poésie. Il se réjouit d'avoir tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux sous les yeux. Et Juliette Drouet, elle, c'est la vie au quotidien.
Au quotidien, voilà, les deux se complètent merveilleusement bien, je pense.
Parfaitement, oui.
Et donc, on vous a demandé de faire cette...
cette préface, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment de réunir le journal de Juliette Drouet et les écrits de Victor Hugo.
Ah, et ça a dû... c'est un peu honorifique quand faire une préface d'un livre où Victor Hugo écrit.
Oui, ben, bien sûr. Et en même temps, cela m'a permis de relire et relire X fois ce voyage de Victor Hugo dans les Pyrénées qui est remarquablement écrit. On ne s'en lasse pas. Ouais. On peut le relire sans arrêt.
D'accord.
Et en se laissant bercer par son style remarquable.
Voilà, Anne. Mais je ne savais pas que vous aviez fait cette préface. Félicitations à vous. Alors, la semaine prochaine, nous partirons dans une diligence branlante pour aller à Foix avec un écrivain britannique qui s'appelle...
Charles Richard Weld.
À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
Que la santé vous garde et que des enfants vous chantent un jour. Votre jolie lumière, votre grâce. Soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre. Voir, écouter, sentir, entendre. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent. Parcours. Bonne route et à demain.
cynisme jamais ne vous abîme.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV s'apprête à quitter la Guinée équatoriale d'ici moins d'une heure, refermant ainsi le dernier chapitre de son voyage apostolique.